Alors cette position, qui est une position de défense qu'on peut comprendre et qui est intéressante dans une certaine mesure, est risquée parce que à partir du moment où j'explique toute une série de choses par la science, le problème c'est que la science avance et si par exemple je me suis mis dans l'idée, par exemple, comme c'était le cas de Palais, de dire « Regardez la diversité du vivant ». C'est vrai que c'est extraordinaire. Les espèces différentes, regardez tout ça. Eh bien, Palais disait « On ne peut pas comprendre comment cette diversité du vivant apparaît comme ça. Il faut vraiment que des interventions spécifiques de Dieu, parce qu'on ne voit pas comment, avec la chimie et la physique de l'époque, expliquer comment le kangourou est apparu ». En Australie, ou comment le bouleau ou le sapin est apparu dans les forêts. Donc on ne comprend pas bien, donc c'est quelque chose que la science ne peut pas expliquer, donc il faut sûrement une cause extérieure qui explique ça. Le problème c'est que, bon, quand des gens lisent ça, ils sont effectivement très impressionnés, ils disent « Ah ben oui, effectivement, c'est trop complexe, la science n'explique pas, donc il faut une intervention extérieure ». Et parmi ceux qui lisent ça avec beaucoup d'enthousiasme et qui sont marqués par ça, il y a Darwin. Hein, Darwin a été très marqué. Parce que vous savez que Darwin a fait des études de pasteur à Cambridge, et il a été marqué par la lecture de ça. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on découvre un mécanisme par lequel des nouvelles espèces peuvent émerger sans intervention directe extérieure transcendante, alors on se dit, ben, donc on n'a plus besoin de Dieu. Et donc, on congédie Dieu. Ce que fait Darwin. Darwin est très très croyant au début, hein. Il est subjugué par la théologie naturelle de Palais, et quand il part faire son grand voyage de 5 ans sur le Beagle à travers le monde, où il recueille des informations, entre autres, ça c'est là, un peu là, l'exemple paradigmatique dans les Galapagos, où il voit ces îles avec des pinsons au bec très varié, etc. Et il se dit, tiens, mais l'émergence de ces espèces est peut-être liée finalement à des petites variations des populations et la sélection naturelle, etc. Il découvre un mécanisme et il se dit, mais donc, pas d'intervention requise de la transcendance là-dedans, donc j'ai plus besoin de Dieu, il n'y a pas de Dieu, je le congédie, et Darwin progressivement devient agnostique. Oui. Alors, le danger de cette position-là, c'est qu'à partir du moment où on fait intervenir Dieu au cœur de la science, comme s'il était simplement un processus scientifique, le jour où la science vous explique ça, vous n'avez plus besoin de Dieu, et donc Dieu disparaît. Ça, c'est le grand risque de ce concordisme épistémologique, si vous voulez. Oui. 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 Par exemple, j'observe un commencement explosif de l'univers. J'y reviendrai. Hein. Commencement explosif, très chaud, très dense, etc. Donc, le monde semble ne pas toujours avoir été. Hein. Le monde semble ne pas toujours avoir été. Il y a un commencement à distance finie dans le temps. Eh bien, si, d'une certaine manière, on faisait ce genre de théologie naturelle, comme encore certains peuvent faire aujourd'hui, on dirait, ah oui, mais donc c'est la preuve que Dieu a créé le monde. Il n'a pas toujours été, il a commencé, donc il a été créé. D'accord? Et c'est la preuve de l'existence d'un créateur. Big Bang impose création. J'ai donc démontré l'existence d'un créateur. Faire ça, c'est très dangereux. Pour deux raisons. On a transformé simplement la création en un moment. On a dit la création, c'est simplement le point de départ d'un processus. Oui, bon. Mais on oublie que, d'une certaine manière, et je reviendrai, le point de départ de l'univers peut être un mécanisme qui n'a absolument rien d'une création. On peut très bien avoir un début de l'univers à partir d'un état physique qui est là de toute éternité et qui n'est pas du tout créé. Bon. Deuxième chose embêtante, on parachute Dieu comme une cause physique parmi d'autres. On immerge la transcendance dans l'immanence. Et on fait de Dieu simplement la chiquenaude initiale. Une sorte de Dieu n'est plus que une impulsion initiale. Or, dans le fond, la création, c'est pas ça. Et j'y reviendrai. Hein? Bon. Saint Thomas dit lui-même, hein, que le monde n'est pas toujours été, cela seule la foi l'atteste. Hein, et comme seule la foi atteste, dit directement Saint Thomas après, atteste de la Trinité. Qu'on ne démontre pas l'existence de la Trinité. Le danger de ces positions-là, c'est aujourd'hui de dire, oui, mais si les physiciens, maintenant, montrent qu'en réalité, il n'y a pas de Big Bang, et qu'on peut remonter plus loin que la singularité initiale, c'est-à-dire on peut peut-être avoir quelque chose avant le Big Bang. Alors Dieu ne serait plus nécessaire. C'est ce que dit Hawking. Hawking dit, voilà, les modèles aujourd'hui probablement montrent que, oui, l'univers a commencé par un état très dense, très chaud, etc. Mais ce n'est pas un premier moment. En réalité, il peut y avoir des phases avant. Et Hawking dit, eh bien, voyez, on a plus besoin de Dieu. On a des modèles qui ne font pas démarrer le monde en temps fini, en arrière. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de création, donc pas de créateur. Dans son dernier livre, The Grand Design, hein, qui a été traduit, vous lisez Hawking. Non, vous avez lu, peut-être. Certains ont lu. Il a fait paraître en juin dernier un livre qui s'intitule donc le grand dessin, mais ça a été traduit en français chez Odile Jacob sous le titre de « Y a-t-il un grand architecte dans l'univers ?» Et son raisonnement, c'est simplement ça, c'est on peut, grâce à la physique, expliquer pourquoi l'univers démarre. Et je peux vous expliquer comment il fait, c'est assez simple, mais c'est un processus purement physique. Alors il dit, regardez, je vous exhibe un modèle qui va vous faire surgir l'univers à partir d'un état fondamental. Donc on n'a pas besoin de Dieu, hein, il n'y a pas de créateur, il n'y a pas de Dieu, donc Dieu n'existe pas. Bon. Et c'est très très curieux de voir ce raisonnement qui entend à partir de la physique dire, il n'y a pas besoin de Dieu parce que peut-être il n'y a pas de début absolu, etc. On peut expliquer tout par des processus physiques, donc Dieu n'existe pas. Alors si, ça c'est du concordisme évidemment, voyez, on a immergé un concept théologique, la création, on a fait se concorder un concept théologique, la création, avec un concept physique qui est le concept de processus qui fait naître un univers matériel. Mais ce qu'on oublie, j'y reviendrai, c'est que la science n'explique jamais l'émergence d'une réalité ex nihilo. Donc la science explique toujours l'existence de quelque chose par l'existence d'autre chose. Et vous avez beau pousser à bout le raisonnement, toujours vous trouvez de l'existence préexistante. Donc par exemple, Hawking va dire, oui mais il n'y a pas de Big Bang, on explique ça par un état fondamental de l'énergie qui, etc. Oui mais ça existe. Qu'est-ce qui explique que ça existe? Oui. Donc en fait, la science explique toujours quelque chose qui existe par quelque chose qui existe avant. Et donc, Hawking croit dire, oui mais moi je vous explique comment émerge l'univers. Et donc il n'y a pas besoin de créateur. Oui mais ce qu'il explique en réalité, c'est comment l'univers émerge à partir de quelque chose qui existe. Mais pourquoi ça existe? Oui. Alors aujourd'hui vous trouvez ça dans la littérature tout le temps. Enfin, tous les mois, il y a un article dans la littérature de vulgarisation scientifique, c'est Dieu existe-t-il ou Dieu n'existe plus, ou plus de Big Bang, plus que Dieu, il n'y a pas besoin de créateur, etc. Et ça, c'est typique de cette position-là. Alors, on va voir pourquoi elle est dangereuse. La preuve, c'est que on peut montrer aujourd'hui que c'est ça qui crée progressivement l'abandon de la foi chez Darwin. Alors qu'il était un croyant très profond, il y avait d'ailleurs une femme profondément croyante qui est restée jusqu'au bout. D'ailleurs, elle est triste de voir son compagnon Charles perdre la foi. Mais il la perd pourquoi? Parce qu'il est persuadé que, et ça c'est la théologie naturelle de Paley, qu'on peut dire des choses directement de la théologie en partant des sciences, et progressivement il voit que la science explique les phénomènes sans Dieu, donc il abandonne Dieu. Alors ça c'est très dangereux. Oui. Non seulement d'un point de vue fondamental, on a identifié Dieu et la nature, ou un morceau de la nature avec Dieu, mais aussi on a réduit le contenu théologique et éventuellement la révélation à des déductions purement scientifiques. Maintenant, vous pourriez me dire, oui, mais moi je suis panthéiste. Ah oui, ben alors, ok, vous avez le droit d'être concordiste. Hein, vous avez le droit. Mais le problème, c'est que nous ne le sommes pas dans la foi, le contenu de la révélation nous dit non, le monde est indépendant de Dieu. Dieu pose le monde dans son être, mais le monde a une certaine autonomie, ce qui nous permet d'ailleurs d'être libres par rapport à lui. Hein? Le monde n'est pas Dieu. Et si le monde n'est pas Dieu, nous ne pouvons pas soutenir ça. Donc le concordisme est non seulement évacué pour des raisons ici de mélange de genre qui est inconvenant, mais ici pour des raisons qui seraient théologiques, c'est-à-dire à partir du moment où je crois ça, alors, d'une certaine manière, je suis en dehors de la théologie de la création des grands monothéismes. D'accord ? Bon. Maintenant, si quelqu'un me dit, moi je veux être panthéiste, bon, je ne vais pas l'enchaîner et il a le droit de... Bon, mais il doit être conscient des conséquences. Hein? Entre autres, le fait que, de fait, il n'est plus qu'un morceau de Dieu, donc il n'a plus aucune liberté dans ce grand tout, etc., etc. Bon. Alors, maintenant, je ne vais pas développer plus longtemps ceci et je vais passer directement à la deuxième colonne. Le discordisme